ce dernier épisode consacré à Pierre-Dominique Burgot-Parolier, un entretien enregistré en août 2019, quatrième partie et fin donc de cet entretien. Je vous rappelle que Backstage Podcast, ce sont Margot Delpierre, journaliste radio, et Thomas Langlin, technicien supérieur du son. Ils nous font découvrir tous deux les coulisses de la création par la voix de ceux qui font la culture. Quelle bonne idée! Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver l'ensemble de leurs podcasts sur leur site backstagelepodcast.com.
Vous avez travaillé avec énormément d'artistes maintenant très réputés. On vous regarde différemment, non, maintenant que quand vous avez commencé? Justement, est-ce que vous avez droit à plus de respect ou de politesse?
Est-ce que les gens respectent plus 600 000 albums du Soldat Rose ou bien 30 000 albums de Chamfort avec une station Auteur de la Musique? Les gens ont tendance à respecter le succès. Le succès, aujourd'hui, on peut pas dire que je casse la baraque. Je fais pas des tubes à tous les coups et en même temps, je cherche pas à faire des tubes à tous les coups. Enfin, plus exactement, je préfère un tube que pas un tube, mais je ne vais pas vers des interprètes qui me garantissent un tube. On voit en gros quels interprètes qui passent sur toutes les radios peuvent faire un tube. Moi, il y en a que je refuse. Alors peut-être que j'arriverai pas à écrire leur chanson, mais quand je travaille pour Alain Chamfort, je sais que je vais pas faire un tube, puisque de toute façon, la chanson va passer sur France Inter, sur RTL si on a de la chance, sur FIP. Et donc, on fait pas un tube avec ces trois radios. Les maisons de disques, je crois qu'elles respectaient plus ce succès. Et les artistes, j'ai l'impression qu'ils respectent plus la qualité. Aujourd'hui, moi, je me sens à l'aise dans la perception que les artistes ont de moi. J'aime bien. Les quelques retours que j'ai de gens que j'admire sont plutôt positifs. Alors que, à l'époque du Soldat Rose, ils s'en foutaient un peu de ce que j'écrivais. Donc, c'est toujours très complexe de savoir pourquoi les gens vous demandent des chansons. Ça coûte rien de demander une chanson. Donc, quand on me demande une chanson, je sais pas si on veut vraiment une chanson de moi. Ou bien si on demande à 15 personnes, et puis en se disant, demande à lui aussi, peut-être si ça se trouve, il va trouver. J'ai quand même l'impression que, et ce que je trouve pas scandaleux, que je suis pas sûr qu'aujourd'hui quelqu'un se dise, je veux une chanson de Burgot. Après ça, c'est à moi que je le reproche, c'est, il faut que j'en fasse encore plus et encore meilleur pour qu'à un moment, quelqu'un se dise, je veux une chanson de lui.
Même à vos débuts, ça vous a jamais préoccupé de devoir écrire un tube? Parce que, en préparant cet entretien, j'ai compris que tant qu'on n'écrivait pas de tube, que ça cartonnait pas, on en vivait assez mal.
J'ai jamais vraiment pris en compte les histoires d'argent. Déjà parce que j'en avais gagné un peu dans ma vie précédente. Ça me permettait d'être un peu à l'aise. J'ai jamais eu à me dire, il faut absolument que tu sortes une chanson. Ensuite, le Soldat Rose arrivant dès le début, ça a encore relancé un petit peu la possibilité de vivre sans compter exactement, puisque le Soldat Rose avait beaucoup marché. Moi, je me suis jamais posé la question du tube ou pas du tube. J'ai fait quelques projets qui marchent, quelques albums qui se vendent, mais quand vous regardez... Peut-être le truc de Cabrel, pour le Soldat Rose qui est beaucoup passé, ou un truc pour David Hallyday, mais j'ai pas de chanson connue. Enfin, je crois pas, je suis même sûr. Après, j'étais sur des projets qui parfois ont vendu beaucoup d'albums, donc qui permettent... aujourd'hui, si c'est là que vous voulez en venir, sur l'économie de la musique, c'est vrai que les albums ne se vendant plus, la seule possibilité d'avoir des revenus est quand même dans le tube, c'est-à-dire dans les droits radio, et le tube finit dans un concert. Comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas payé pour faire une chanson. C'est-à-dire qu'au moment où on vous demande une chanson, vous n'êtes pas payé. Au moment où on vous prend une chanson, vous n'êtes pas payé. Au moment où la chanson est produite, vous n'êtes pas payé. Vous n'êtes jamais payé. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous en demande plein, parce que de toute façon, ça coûte rien. C'est pour ça aussi que vous êtes totalement libre, puisque vous n'avez aucun contrat avec personne. Après, vous êtes payé uniquement un petit pourcentage sur l'album, quand l'album est vendu, mais les albums ne se vendent plus. Vous touchez quand la chanson passe en radio, et vous touchez quand la chanson passe en concert. Donc effectivement, les albums ne se vendant quasiment plus... L'importance du tube, elle est primordiale, puisque si vous avez un tube, vous passez beaucoup en radio, donc ça vous rapporte de l'argent. Les tubes sont joués en concert, donc vous allez gagner de l'argent en concert. Inversement, si vous avez une chanson d'album, comme l'album s'est pas beaucoup vendu, eh ben vous gagnez pas beaucoup d'argent, et puis votre chanson, de toute façon, elle passe pas à la radio, puisque c'est pas le tube, et puis votre chanson, elle est pas dans le concert, puisque c'est pas... C'est très exponentiel. Soit vous gagnez vraiment pas grand-chose, soit vous gagnez beaucoup d'argent pour une chanson. Comme je me suis vraiment jamais soucié de ça, mais alors là, je pense que vous vous adressez à la mauvaise personne, parce que je pense qu'il y a des artistes, des auteurs, des compositeurs qui sont un peu plus angoissés que moi pour ces histoires d'argent.
Il y en a pour qui c'est très compliqué. Oui. Quelqu'un a dit, dans Le Parisien, il y a quelques années, certains auteurs sont devenus gardiens de musées pour survivre. C'est vous, dans Le Parisien?
Oui. Enfin, je peux le dire, parce qu'il a fait... C'était David Scrima, qui est un auteur-compositeur, et qui a écrit le premier gros tube de Julien Doré. Il écrit Les Limites, auteur-compositeur, donc gros titre, auteur-compositeur, beaucoup d'argent. Et puis après, il a peu de chansons qui sont sorties, et puis à un moment, on arrive au bout quand même de la manne de l'argent, il a une famille, Et il est devenu effectivement gardien au Louvre. Alors ça l'empêche pas d'écrire des chansons. Hein. Au début, il avait pas le droit d'avoir un carnet. Maintenant, il a le droit d'avoir un carnet. Et enfin, il y en a d'autres. Hein, je connais des gens qui font autre chose à côté, qui sont. Mais bon, je trouve. Enfin, c'est sûr qu'aujourd'hui, pour en faire son métier, je pense que c'est complexe et que je vois beaucoup d'auteurs très reconnus qui font autre chose. Enfin, qui font autre chose. Alors, qui sont à la SACEM. Quand je dis qu'ils sont à la SACEM, qui participent aux décisions de la SACEM, sont au conseil à la SACEM. Donc, c'est quand même une source d'argent. Ou bien qui sont intervenants dans des stages et tout. C'est-à-dire qu'ils trouvent une autre façon de gagner de l'argent. Mais je parle là de gens énormes. Par exemple, Jean Fauque, qui a écrit plusieurs albums de Bachung. Je sais pas quelle est la réalité de ses revenus aujourd'hui. Mais ça doit pas être dingue. Les chansons de Bachung, ça passe pas tous les jours à la radio parce que, bon, alors le dernier album, c'est pas un album qu'il écrit. Après, quand on est qu'auteur comme moi, la possibilité aussi, c'est que nous, les projets sont multiples. C'est-à-dire que je peux mettre quelques chansons dans quelques albums, donc ça fait quand même une petite quantité. C'est presque plus complexe quand on est un artiste, auteur-compositeur, au nom des gens très bien, je sais pas, Jeanne Chéral, Vincent Delerme, Albin de la Simone, que je trouve des supers artistes. Quelle est l'économie quand finalement on sort un album tous les 3 ans et puis qu'on en vend plus beaucoup? Alors, bon, eux, ils peuvent encore tourner en concert, mais je pense que l'économie, elle se rétrécit quand même beaucoup. Alors que c'est des gens importants de la chanson française, importants pour ce qu'ils sont aujourd'hui, importants parce que ça va être des marches pour d'autres gens, c'est-à-dire qu'ils donnent envie à d'autres gens de faire ça. Le problème de l'économie aujourd'hui, oui, me semble primordial. Après, c'est très complexe d'en parler parce que tous les artistes qui marchent veulent pas en parler, parce que veulent pas prendre position, parce que on va leur reprocher leur argent. Vous entendez jamais. Bon, là, j'ai vu que Goldman, finalement, il allait sur Spotify. C'est-à-dire que tous les gens contre le streaming, au fond, ne l'ont jamais exprimé parce que ils disent oui, non, mais moi, je peux pas dire ça parce que bon, moi, déjà, je suis très riche. Si en plus, je dis que je suis contre. Reste les quelques artistes qui s'expriment dessus, on dit oui, mais alors lui, il râle, c'est parce que ça marche pas pour lui. Qu'il faudrait, ce serait plus important que des artistes représentatifs du métier disent ce qu'ils pensent du droit d'auteur, disent comment ça marche, parce que les gens sont quand même dans l'ignorance de comment ça marche, je comprends tout à fait. Ils confondent un auteur, un compositeur, l'interprète, ce que touche sur un album un interprète n'est pas la même chose que ce que touche un compositeur, ce que touche un auteur. Il y a les droits d'édition, il y a les royalties, il y a les droits d'auteur, il y a plein de choses différentes qui sont incompréhensibles. Les gens ne comprennent pas et tous les articles que je lis sont faux, y compris dans les journaux, parce que c'est complexe. On ne sait plus vraiment, donc le streaming, par exemple, c'est formidable ou pas. En tout cas, c'est comme ça, donc le streaming, c'est comme ça. Par contre, quand on lit, oui, mais alors l'économie globale de la musique va mieux, puisque le streaming, l'économie va mieux probablement, mais l'économie des gens en particulier va mieux, j'ai un gros doute. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'argent divisé en énormément plus de gens. Et j'ai toujours du mal, moi, à savoir, je ne sais toujours pas combien on touche sur un streaming. Tout le monde dit des choses différentes. En ce qui concerne l'auteur et le compositeur, ça s'approche vraiment de rien, mais de rien du tout. C'est du l'ordre de 0,000, mais un truc complètement dingue. Complètement.
Par écoute.
Pour l'auteur, je parle. Mais c'est complètement rien, c'est-à-dire que j'ai du mal à avoir un avis sur tout ça. Enfin, si, je vois bien que les gens veulent plus payer pour la musique. Bon, bah voilà, il faudra faire avec. De toute façon, plus personne ne veut payer pour rien. Donc, je voyais que je lisais dans Le Monde là que l'industrie des moyens de paiement, des cartes, cherche une façon de faire que les gens n'aient plus l'impression de payer. C'est pour ça qu'il y a les abonnements, c'est-à-dire aujourd'hui, carte bleue, ils cherchent comment ils vont faire pour que les gens n'aient plus à sortir leur carte, parce que quand on sort la carte, c'est encore une douleur. Par contre, quand on a un abonnement Spotify, un abonnement Netflix, on voit pas qu'on paye, il y a un truc...
Déjà, quand on paye sans contact, on n'a pas vraiment l'impression de payer, je trouve.
Voilà, ça doit faire partie de ce même processus. Je vois pas comment on va refaire payer à des gens qui déjà payent plein de choses ailleurs, et puis l'économie générale des gens ne va pas bien non plus. Donc si on peut avoir la musique quasiment gratuitement... J'ai vraiment du mal à m'exprimer là-dessus parce que j'ai pas le nez dans tout ça. Je peux pas vous dire les revenus exactement de tout ça parce que j'ai pas moi-même le nez dans mes comptes. Je vois que j'en vis et c'est déjà dingue. C'est une vie de liberté extrême quand même, de faire comme on veut, je fais avec ce qu'on me donne et puis voilà.
Avec chance, vous avez rencontré le succès quand même, on peut le dire. Mais vous êtes resté inconnu aux yeux du grand public. Ça vous frustre pas d'être dans l'ombre?
Non, pas du tout. Ça ne me touche pas du tout. En fait, je trouve ça normal. Parce que on est tellement bombardé d'informations. Déjà, savoir qu'il y a un disque d'Alain Chamfort qui sort, c'est déjà complexe que les gens aient ça en tête, hein. Parfois, vous êtes en pleine promo, vous êtes sur France Inter, sur Europe. Vous voyez des gens qui disent, alors, il sort quand votre album? Vous avez l'impression que tout le monde devrait être au courant, personne n'est au courant. Donc, si en plus, c'est déjà complexe de dire, bonjour, je suis Alain Chamfort, je sors un album. Si en plus, il fallait dire, oui, cet album a été écrit par Pierre-Dominique Burgo. Les gens ne comprennent plus rien. Déjà, Pierre-Dominique Burgo. Trois noms, on ne comprend plus rien. Donc moi, je trouve ça normal qu'on soit pas cité, parce que, alors, soyons honnêtes, dans les journaux un peu plus professionnels, on est cité. Et puis les gens dans la musique savent qui fait quoi. Après, le reste, que les gens savent que ça existe, moi, ça me trouble pas du tout. Et même, quand il y a un article c'est important pour moi qu'on parle de la chanson que j'ai faite, par exemple, dans un article du journal. Je suis très content qu'on en parle, qu'elle existe, qu'il y ait une critique, je préfère qu'elle soit bonne. Mais si elle est mauvaise, peu importe, je trouve que c'est important que ma chanson existe. En revanche, qu'il y ait mon nom ou pas, ça m'indiffère absolument. Je sais pas comment vous faire croire, si ce n'est que c'est vrai, c'est que... par contre, quand j'ai fait une chanson sur un album, je suis content qu'on dise « Ah, la meilleure chanson étant « Ah, c'est chouette, c'est la mienne ». Même si on ne met pas mon nom, je m'en fiche.
Est-ce que vous pensez, comme d'autres paroliers, que la profession est en voie de disparition ?
Je sais pas. Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, tous les nouveaux artistes qui arrivent et qui sont forts sont des auteurs, compositeurs, interprètes. Je parle de jeunes artistes. Des paroliers, j'en connais pas beaucoup. Je dirais pas en voie de disparition parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on peut s'en passer. Déjà parce que les gens s'en foutent un peu des paroles, de plus en plus. Parce que l'économie se rétrécissant, j'ai vu moi plein d'artistes débutants qui disent « Ah oh ben non, je vais pas te demander de faire les paroles parce que sinon je toucherai pas les droits. Déjà, je vais pas toucher grand-chose, donc je préfère toucher... Et puis comme les paroles, on s'en fout un peu, je vais le faire moi-même. » Donc ça veut dire l'économie se rétrécissant, les artistes font de plus en plus tout eux-mêmes, et puis c'est difficile pour un auteur de s'installer parce que économiquement c'est complexe. En revanche, comme je pense qu'il y a toujours une poussée inverse, je pense que la sorte d'ingratitude autour de laquelle a tourné les paroles, j'ai l'impression que ça va se retourner et qu'on va revoir des chansons à texte. Alors je sais pas combien de temps ça va prendre. Je trouve que dans le rap quand même, les paroles c'est très vivant et tout. Il y a des bons paroliers dans le rap. Alors bon, ils sont interprètes aussi.
On a pas mal parlé de la crise du disque. Si demain vous ne pouvez plus vivre de votre métier d'auteur, de parolier, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez des envies ?
Non, alors moi j'ai toujours adoré les métiers à faille blanche. J'adore l'économie de moyens, on n'a rien. Et puis un quart d'heure après, si ça se trouve, on a quelque chose qui fait rire. On crée du sens, on peut créer de l'intelligence, on peut... J'adore ça, donc je serai jamais loin de tout ça. Après, pour être honnête, maintenant que je ne suis plus tout jeune, je pense que j'arrêterai plus. Déjà, je me suis mis dans une position où je ne recherche pas un succès en termes de vente. Comme je me suis pas mis comme pression de « faut que ça marche », ça me met un peu à l'abri de « bon, ben voilà, et puis comme le comment on dirait ça en jargon, le fond de roulement, j'ai un fond de roulement de chansons qui tourne et qui garantit un peu de revenus, je pense que je continuerai à faire ça... Je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Alors après, parallèlement, je fais des petits livres pour enfants, je peux écrire des clips. Tout ce qui est un petit peu créatif et court, j'arrive à le faire. Je serais incapable de faire un film, je serais incapable de faire un livre. Par contre, je veux rester dans la création. Mais moi, c'est bizarre, hein, parce que peut-être que vous êtes... peut-être que c'est moi qui vois pas très bien, mais je suis pas très inquiet, en fait. J'ai pas l'impression... Pourquoi vous dites que ça va s'arrêter? J'ai l'impression que ça va pas s'arrêter, moi. Que ça va continuer. Ou alors tous les chanteurs pour lesquels je travaille meurent un par un, ce qui est possible aussi. C'est une autre façon de voir les choses. Il faut que je travaille pour des jeunes chanteurs, des jeunes chanteuses.
Je vous ai pas demandé, vous avez des influences ?
Bof. En fait, on commence par des influences, mais c'est un peu un piège. C'est-à-dire que j'ai adoré Gainsbourg, et puis en adorant Gainsbourg, j'ai fait du sous-Gainsbourg. Et puis après, j'ai adoré Souchon, puis en adorant Souchon, je faisais du sous-Souchon. Et puis Miossec, je faisais du sous-Miossec. Et après avoir digéré tout ça... j'essaie de faire ma sauce à moi. Alors maintenant, j'essaie surtout pas de faire une chanson à la Gainsbourg, à la Souchon, à la Miossec, à la Biolay, à la... Par contre, c'est que des gens dont j'admire les paroles. Alors pour Benjamin Biolay, je suis très très admiratif d'une liberté d'écrire complètement dingue. Je sais pas comment il écrit ça. On a l'impression qu'il dégueule un peu ses mots. Je sais pas s'il écrit en buvant, en se droguant. Mais on a l'impression que les mots sont pas réfléchis. Et je trouve que lui, il peut chanter tout. Et c'est une liberté vraiment dingue. Quand je voyais avec Alain, ou le choix de vocabulaire, même si je l'ai un peu changé, parfois on faisait des essais et ça marchait pas très bien. Parce que c'est, ah non, tu peux pas dire ce mot-là. Biolay, il peut dire tous les mots, c'est dingue. Il peut faire une chanson très chic pour Vanessa Paradis. Et puis il peut chanter une chanson sur le Glory Hall. Et puis d'un seul coup, ça marche. Alors qu'il dit des termes horribles. Tout marche dans sa bouche et je trouve que ça, c'est une je suis assez admiratif de cette liberté-là. Alors c'est pas qu'une liberté d'auteur, c'est une liberté d'interprète. Aussi, parce que lui, il peut les dire, mais par contre, Louane, par exemple, quand elle chante du Biolay, elle pourrait pas chanter du Biolay un peu crade. Enfin, crade, je dis ça comme un compliment qu'il peut avoir. Je trouve qu'il y a vraiment de l'épaisseur dans Biolay que j'admire. Et voilà, j'aimerais bien trouver cette façon de... J'appelle ça désécrire. En fait, ça devient un peu ennuyeux quand on voit que c'est trop écrit. Quand on voit que c'est trop... L'idée, c'est ce que j'essaie de faire pour Alain, c'est... que ça paraisse pas écrit, que ça paraisse un peu jeté, alors que bien sûr, y compris pour lui, je pense que c'est du travail de que ça paraisse jeté. C'est tout le travail qu'il faut pour accéder à la spontanéité.
Ben, merci Pierre-Dominique Burgot.
Merci à vous.
Backstage, un podcast présenté par Margot Delpierre.
Merci encore à Pierre-Dominique Burgot, invité de Backstage, un podcast monté et mixé par le poète incompris de cette émission, Thomas Langlin. Pour aller plus loin, rendez-vous sur notre site backstagelepodcast.com. Vous y retrouverez une playlist consacrée à notre invité.